ربنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد On est toujours donc dans la série et j'espère, Inch'Allah, et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite, que ce sera le dernier cours aujourd'hui de l'Usul Sitta, Ad-Dars al-Akhir, min sisilat durus Cheikh Oubel Jabiri Hafidahullahu Ta'ala, fi sharh kitab al-Usul Sitta lil-Imam al-Mujaddid, Cheikh al-Islam Mohamed bin Abdelwahab, Rahimahullahu Ta'ala. On termine le cinquième fondement. Wa amma qawl al-Musannifi, رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيه من ترك تبع الرسل ومن تبعهم فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء Donc Cheikh Oubel Jabiri, Hafidahullah Ta'ala, il continue en disant « En ce qui concerne la parole de l'auteur qui est « Puis la situation est devenue chez la plupart de ceux qui se revendiquent de la science. » Et qu'ils font partie des guides et des défenseurs de la religion. Et bien que la situation est devenue telle que les awliya, c'est-à-dire les gens bien-aimés d'Allah, se doivent de délaisser le suivi des messagers. Et que celui qui les suit, eh bien, ne fait pas partie de qui des awliya. Oh Allah, nous te demandons de nous donner, de nous pardonner et de nous protéger, tu certes celui qui entend les invocations. Cheikh Oubel Jabiri, hafadahullah, il dit... قلت فكثير من الذين يظن الناس أنهم علماء وأنهم دعاة إلى الله عز وجل يصل بهم الأمر إلى ترك ما جاءت به الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم عليهم الصلاة والسلام لهذا سادت عندهم عبادة أهل القبور والذبح والنذر لهم ودعاؤهم من دون الله عز وجل والغلو فيهم حتى إنهم يرفعونهم فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغلو الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالولاية الصحيحة السديدة فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأساسه إخلاص التوحيد لله عز وجل وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعظمه الشرك بالله وسواء كان شركا في الربوبية أو العبادة أو الطاعة أو غير ذلك Cheikh Oubel Jabiri, Hafidhullah, il nous dit, je dis beaucoup de ceux dont les gens pensent qu'ils sont des savants et qu'ils appellent à Allah Azza wa Jal, eh bien leur situation est devenue telle qu'ils ont délaissé ce avec quoi sont venus les messagers de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu salam. Et c'est pour cette raison que prédomine chez eux, eh bien quoi, l'adoration des gens des tombes, al-qubur, et le sacrifice pour eux, ainsi que leur vouée de vœux, ce qu'on appelle un nadr. On avait déjà expliqué dans plusieurs de nos cours qu'est-ce que ça voulait dire un nadr. Et les invoquer en dehors d'Allah azza wa jal, et l'exagération envers eux, à tel point qu'il les élève à un degré supérieur à celui de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette exagération a été rendue illicite par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. La vraie wilaya, on avait déjà expliqué c'était quoi en détail, et on termine ce point là aujourd'hui, et bien la vraie wilaya, et si vous voulez c'est une phrase qui va résumer tout le cinquième fondement qui concerne l'awliya, et on avait vu les caractéristiques de l'awliya, notamment de quelle sourate ça, Younous c'était, qui était l'awliya? ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا Yattaqun, les descriptifs, les attributs, c'est ça que je demande ici. Vous êtes sûr? C'était le Furqan. Les derniers versets de Sourate Furqan. Aussi le Mutaffifin. On avait cité un verset d'Ali Imran? Qui se me rappelle le verset de Sourate Ali Imran qu'on avait cité? On avait cité ce verset, c'est juste. Et on avait dit que il y avait une condition et qu'il y avait un jaza par rapport à celui qui. Qui quoi qui? Qui remplit les conditions, c'était quoi? C'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et son pardon, naam. On avait dit beaucoup de choses à la kulihal. Ici, cette phrase-là, elle vient pour résumer ce qu'on a dit. La vraie wilaya, c'est de mettre en pratique et d'appliquer les commandements d'Allah Azza wa Jal, ainsi que ceux de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir dans le point suivant, sixième fondement, ça va être développé ce point-là. Et de son messager, alayhi salatu wa sallam. Et sa base, c'est-à-dire quoi la base de la wilaya? Eh bien, c'est dévouer une unicité sincère à Allah Azza wa Jal et délaisser ce qu'ont interdit Allah et son messager, alayhi salatu wa sallam. Et ce qu'ils ont interdit de plus grave, c'est quoi? L'association Allah Azza wa Jal, shirku billah. Et ce que ce soit l'association Allah dans la souveraineté, al-rububiyya, ou l'adoration, l'ibada, ou ta'a, l'obéissance, ou autre que cela. Donc on avait dit que pour être un wali, il fallait deux choses. C'était quoi? L'iman, ou taqwa, dalil, surat, Younes 62-63. D'accord. On avait dit qu'il y avait deux parties de gens. Nas fariqan, awliya al-rahman, ou awliya al-shaytan. Est-ce que donc, c'est qui les awliya al-rahman? Cheikh, il avait dit tous les musulmans. Il avait dit, mais les gens, ils sont quoi? Ils sont différents dans leur wilaya. Ils ont différents degrés. Et on avait cité différents degrés. On avait cité trois, non? Et c'était quoi? Sabiqum bil khairat, muqtasid et zalimun li nafsi. C'était quoi le sabiqum bil khairat? C'était qui? C'était quoi le muqtasid? C'est-à-dire? Sûr? Ouais, mais je veux plus de détails par rapport à ça. Et ils délaissent les interdits. Faut revoir, Inch'Allah. D'accord? Faut revoir, les frères. Ça, c'est des notions qui doivent être connues. C'est pour ça qu'on les a vues, d'ailleurs. D'accord? À la kulli hal, on va s'attacher à l'étude du sixième fondement. On rentre directement dans le sixième fondement qu'on espère qu'on va terminer aujourd'hui. رد الشبهة التي الأصل السادس رد الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة وهي أي الشبهة التي وضع الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما سبحان الله وبحمده والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات للعامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Donc ça c'est le dernier fondement des six fondements de Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. On le traduit, le sixième fondement, c'est la réfutation de l'ambiguïté émise par Satan, Shaitan, dans le délaissement du Coran de la Sunna et le suivi des opinions, et et des passions diverses et divisées. Et c'est-à-dire l'ambiguïté émise par Satan, que le Coran et la Sunna ne sont connus que par qui ? Al-Mujtahid al-Mutlaq. Évidemment, on va voir c'est quoi, Inch'Allah, al-Mujtahid al-Mutlaq. Et on va voir les conditions du Mujtahid al-Mutlaq. Et il est celui, on continue dans le matin ici, il est celui qui a telle et telle description. Caractéristique qui peut-être ne se retrouve même pas complète chez qui ? Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Si l'individu n'est pas de ce niveau, eh bien il se doit de quoi ? De les délaisser, c'est-à-dire quoi ? De délaisser le Coran ou la Sunna. C'est une ambiguïté de shaitan. Certaines personnes disent ça. Il se doit de les délaisser le Coran et la Sunna de manière obligatoire, sans aucun doute et sans aucun souci. Et celui qui cherche la guidance dans le Coran et la Sunna, eh bien, alors, c'est ça qu'il faut comprendre pour eux. Il est alors soit quoi ? Un zindiq, soit quelqu'un de fou, un majnoun. Et c'est en raison de la difficulté du Coran et de la Sunna. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il cherche par ça. En disant que le Coran et le Sunna peuvent être compris que par le Mujtahid al-Mutlaq. Qu'est-ce qu'ils font en faisant ça ? Mais ils veulent détourner les gens du Coran et de la Sunna. Comme Cheikh Obed, il va le prouver. Cheikh, il dit, Subhanallah al-Azim, wa bihamdih. La réfutation de cette ambiguïté maudite, al-Mal'ouna, est de nombreuses manières, à tel point d'arriver au degré de nécessité, même pour la masse des gens. Hatta lil'am. Mais la plupart des gens ne savent pas. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et je vous donne la référence, c'est surat Yassin 7 à 11. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Et vous allez comprendre à la fin du cours, on va boucler la boucle avec ces versets-là, Inch'Allah. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils auront les têtes dressées. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile. Et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, c'est-à-dire le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il ne voit pas Ar-Rahman. Bil-Ghaib. Mais malgré ça, il le craint. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Surat Yassin 7 à 11. Et c'est la traduction du sens des versets. Chir dit, voici donc la fin et toutes les louanges reviennent, sont à Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers. Explication maintenant de Chir Obed al-Jabiri de ce fondement-là. Qawluhu raddu shubha allati wada'a ash-shaytan ila akhir al-kalam. Tilka شبهة تلقاها الشيطان الإنس عن شيطان الجن لماذا؟ لترك القرآن والسنة لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلال والإيمان بالكفر وهذه الشبهة الشيطانية طريقة أهل الأهواء من المبتدعة كالصوفية الحلولية والرافدة ومن لف لفهم وسلك سبيلهم الملتوية من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يحولون دون الناس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة ومن تلك الأوجه أن لهذه النصوص القرآنية والنبوية ظاهرا وباطنا فإذا سمع ضعفاء العقول ومن لا علم عنده هذا الأمر فإنه يقع في نفسه أنها لها ظاهر وباطن وأنه لا يدرك إلا الظاهر والباطن لا يدركه ومنها أن هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا يتأتى العمل بهما إلا للمجتهد المطلق وهذا وجه آخر من صرف الناس عن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعطل السنة. Donc Cheikh Obed, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce point ? Il dit sa parole, c'est-à-dire la parole de l'auteur qui est Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah, la réfutation de l'ambiguïté est mise par Satan jusqu'à la fin de sa parole. D'accord ? Mais cette ambiguïté, les démons parmi les êtres humains l'ont prise, des démons parmi les djinns. Pourquoi ? Pour délaisser le Coran et la Sunna, afin de cacher le vrai par le faux, la guidance par l'égarement, la foi par la mécréance. Cette ambiguïté satanique, al-shubha al-shaytaniya, est la voix des gens des passions, ahlul ahwa, parmi les innovateurs comme les soufis al-hululiyya. Alors maintenant, c'est quoi soufi al-hululiyya ? C'est quoi Aqidat al-Hulul? Eh bien, je vous ai amené la réponse de Cheikh Arabi Ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah. Et il rapporte, on lui a posé une question très très intéressante, que vous retrouvez sur son site. Eh bien, c'est quoi? C'est la différence entre al-Hulul ou Wahdat al-Wujud. Je suis sûr que vous avez déjà entendu les deux termes. Al-Hulul et Wahdat al-Wujud. Il y a une différence. Al-Hululiyya, al-Soufi al-Hululiyya, ce sont les soufis qui disent, par exemple, que Allah, wa al-'Audhu billahi min dhalik, que Allah est dans telle personne. Une question très intéressante a été posée à Cheikh Rabi, qu'Allah le préserve, qui est la suivante. Al-Su'al. Ma al-farqu bayna al-hululi wa wahdati al-wujud? Afiduna jazakum Allahu khayra. Al-jawab min al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Al-hulul al-mughayara bayna al-hal wal-mahal. Fayaqulu kan-nasara Allahu jalla afwan Allahu halla fi Isa. Wal-'audhu billahi min dhalik. Hada qawluhum. Ha, in ghayr al-'ilm yadiz naqil al-kufr laysa bikafir. Tu rapportes un mécréant, c'est pas que tu es un mécréant. Tu rapportes ce qu'ils disent. Hein? Wa al-hallaj yaqul Allahu halla fiyya. On va voir ce que ça veut dire l'a'udhu billah. Ya'ni Allah halla fi hada al-makhluq wa hada kufrun wa zandaqah. Wa aktharu minhu kufran wa zandaqatan wa al-ittihad. Wa huwa i'tiqad anna laysa hunaka farqun bayna al-khaliqi wa al-makhluq. Muttahidin. Mathalan كما يمزج الماء باللبن تستطيع أن تفرق بينهما؟ لا، اتحاد. بهذا الشكل يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق. يغدي كيس كي ديز العدو بالله. الله هو الخالق، سي جوست، إبي ديز والمخلوق هو الخالق. هذا هو الاتحاد، وذاك هو الحلول، كما قلت لكم، وكلاهما إلحاد وزندقة. كيستيون. Posé à Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Quelle est la différence entre le hulul et wahdat al-wujud? Bien, faites-nous bénéficier qu'Allah vous récompense par un bien. La réponse du Cheikh, elle est très précise, comme à son habitude, hafidhahullah ta'ala. Il y a dans al-hulul une distinction faite entre celui qui s'établit à un endroit et l'endroit même. Al-hal ou al-mahal. Il dit donc, comme les chrétiens, qu'Allah s'est établi dans Jésus, wal'iyadhu billah. Et comme Al-Hallaj, qui dit, Allah est établi, s'est établi en moi, wal'iyadhu billah. C'est-à-dire qu'Allah s'est établi dans une personne particulière. Il fait donc la distinction entre le créateur et la créature. Mais qu'est-ce qu'il dit que, hein? Il dit qu'Allah s'est établi dans cette créature. Mais il fait la distinction, mais il dit que, hein, wal'iyadhu billah, qu'Allah s'est établi dans cette créature. Ceci est une mécréance et un athéisme. Et pire mécréance que cela, et pire en athéisme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'autre, c'est l'ittihad, qulbi wahdat al-wujud. Mais c'est quoi? C'est le fait de croire qu'il n'y a aucune différence entre le créateur et la créature. Ils ne sont qu'un. Ils sont fusionnés comme par exemple l'eau lorsqu'elle se mélange au lait, peux-tu les dissocier? Non, c'est ce qu'on appelle l'ittihad. De même, ils disent eux, hein, et nous, on est innocents de cette parole-là évidemment, il n'y a aucune différence entre le créateur et la créature. Allah est le créateur et ils disent eux, et la créature est le créateur. Wal'iyadhu billahi min dhalik. C'est ceci à l'ittihad, et c'était cela le hulul, et tous deux, Cheikh Rabi'a termine en disant, tous deux sont mécréance et athéisme. Fin de citation, tirée du site de Cheikh Rabi'a ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Cheikh Obid le continue en disant, ainsi que les rafidah, et ceux qui leur ressemblent et suivent leur voie parmi les aja'ira, al-jahmiya, al-mu'tazila, et ceux qui sont en conformité avec eux, ils se mettent entre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les gens, de différentes manières. Et parmi ces manières, c'est ça qu'il faut comprendre, ils disent que ces textes du Coran et ces textes de la Sunna ont un sens apparent, ma'na zahir, et un sens caché, ma'na batin. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils cherchent par cela aussi. Lorsque les faibles d'esprit et ceux qui n'ont pas de science entendent cela, une idée se présente à leur esprit. Que les textes ont un sens apparent et un sens caché, et donc, qu'il ne comprend pas, hein, le sens, quoi, caché. Et parmi les manières également, hein, qu'ils utilisent, que ces textes coraniques et prophétiques ne peuvent être appliqués que par al-mujtahid al-mutlaq. Et c'est une autre manière d'éloigner les gens du Coran et de la sunna du prophète, والسلام, afin qu'elle soit délaissée, la sunna du prophète. والسلام. Vous comprenez pourquoi il dit ça maintenant? Et maintenant, chéri, va, hein, ce qu'on appelle en arabe tefnid shubha, il va quoi, réfuter petit à petit, avec en détail, avec méthodologie, avec ilm, cette shubha-là. Il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, wa jazallahu khair al-jaza, shurut al-mujtahid al-mutlaq. Wa labbuda fil haqiqati huna an nu'rija ala shurut al-mujtahid al-mutlaq allati wada'aha ulama al-usul, fa naqul. Awalan, man al-mujtahid al-mutlaq? Al-mujtahid al-mutlaq huwa al-alim alladhi yastafrighu wus'ahu bin-nadhar fil adillati hatta yahsula lahu adh-dhann aw al-qat' bihukm shar'i. Hadha huwa al-mujtahid al-mutlaq. الذي يبحث عن الحق بدليله والمجتهد المطلق له شروط عند علماء الأصول. Quand vous retournez par exemple à شرح أصول من علم الأصول de Cheikh Al-Uthaymeen, vous les trouvez. ومنها سلامة المعتقد وجودة التحقيق والنظر ومنها علم يصلح من النصوص للاستدلال على ما يستنبطه من الأحكام أي يعرف النص الذي يناسب الحكم ومنها علم ما يحتاج إليه من اللغة العربية ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بالمنسوخ ويدع الناسخ ومنها معرفة مسائل الإجماع والخلاف حتى لا يفتي بخلاف الإجماع. Et vous voyez très bien que il n'y en a pas beaucoup parmi les gens chez lesquels se réunissent ces conditions-là. Donc qu'est-ce qui va se passer en admettant ces conditions que quelqu'un qui a toutes ces conditions réunies, le Mujahid al-Mutlaq, bien que lui qui peut comprendre le Coran et la Sunna, la mettre en pratique, eh bien c'est quoi? C'est que c'est de faire éloigner les gens du Coran et de la Sunna. Cheikh, il continue, mais on va d'abord traduire ce passage-là. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, les conditions pour être ce qu'on appelle un Mujtahid al-Mutlaq. On a traduit ce mot-là avant, c'est absolu. On peut traduire ça par absolu. Nous devons de citer les conditions auxquelles le mujtahid mutlaq se doit de répondre. Conditions établies par les savants de quelle science? Usul fiqh, les fondements de la jurisprudence. Nous disons en premier, qui est le mujtahid mutlaq? Eh bien, c'est le savant qui s'efforce du mieux qu'il peut, yastafrighu wus'ahu, d'analyser les textes, jusqu'à ce qu'il arrive à quoi? À émettre un jugement, un hukm, ahsant. Légiférer un hukm shar'i de manière conjecturale, ce qu'on appelle dhanni, ou bien le contraire de dhanni, qat'i. En français, conjectural, c'est-à-dire qu'il arrive soit de manière catégorique à donner le jugement, soit de manière conjecturale. De manière conjecturale, dhanni, ou catégorique, qat'i. Celui-ci est donc al-mujtahid al-mutlaq, qui cherche la vérité par ses preuves. Al-haqqu bidalilihi. Et ce mujtahid mutlaq doit répondre à des conditions établies par les savants des fondements de la jurisprudence, au sol fiqh. Parmi elles, une croyance correcte, première condition. Salamat al-mu'taqad. L'excellence dans la recherche, jawdat al-tahqiq. L'esprit d'analyse, al-nazar. Qu'il sache quelles preuves sont valables dans son établissement des jugements à partir des preuves. C'est-à-dire qu'il connaisse la preuve qui s'accorde, ou cadre si vous voulez, avec le jugement. D'accord ? Al-dalil alladhi yunasibu al-hukm. Qu'il ait la science de la langue arabe nécessaire, évidemment. Qu'il connaisse l'abrangeant et l'abrogé. Parce que s'il ne connaît pas l'abrangeant et l'abrogé, comme il va dire le shir, qu'est-ce qui va se passer ? Il risque de faire une fatwa par l'abrogé, alors qu'il y a un texte qui l'a abrogé, justement, qui est abrogeant. Qui se donne un exemple qu'on a déjà cité dans ce cours ? Pour les frères qui étaient ici, on a cité un exemple. Ouais, c'est bien. Je pensais à un autre, mais vas-y, on l'a cité celui-là aussi. Vas-y, continue. C'était légiféré, mais c'était pas obligatoire. C'est juste, Ramadan au début, c'était pas obligatoire. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient les gens faire à la place? c'était, il pouvait manger, hein? Naam. D'accord? Mais il y avait un autre exemple que j'avais cité. La période de viduité. C'est quoi la période de viduité? C'est-à-dire la période que la femme dont le mutawaffa anha zawjuha, comme on dit, c'est la femme dont le mari est décédé, ce qu'on appelle en français une veuve, hein? Eh bien, elle a une période de quoi? De viduité. C'est-à-dire avant qu'elle puisse se remarier. Alors, c'est quoi le texte qu'il y avait avant dans le Coran et qui était abrogé par un autre verset du Coran, qui est dans la même sourate? Au début, c'était un an. Et après, c'est devenu... Regardez vos notes. Vous avez vu le livre, regardez vos notes. Regardez le Coran, comment il est là. Il a donné la bonne réponse. Hein? Qui s'est cité le verset de surat, hein? Surat? C'était pas surat al-Baqarah? Hein? Personne? Okay. Qu'est-ce que quelqu'un s'est vérifié dans les notes? C'est 4 mois et 10 jours. Arba'at ashurim wa ashra. Hein? À la kulli hal, donc imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas ce texte abrogeant. Hein? Il va faire quoi? Une fatwa? Avec le texte abrogé, il veut dire que la période de viduité de la femme qui a perdu son mari, c'est quoi? Un an. Hein? Il va prendre un texte en ne sachant pas qu'il y a un autre texte qui a réduit cette période de viduité-là. Hein? À la Kouliha, c'est à titre d'exemple. Et parmi les autres conditions, c'est qu'ils connaissent les points où il y a consensus, unanimité des savants. Et qu'ils connaissent les points où il y a divergence également, afin que quoi? Encore une fois, qu'il n'établisse pas un jugement, une fatwa, allant à l'encontre de quoi? De l'ijma', de l'unanimité des savants. Et ces conditions ont été établies par les spécialistes des fondements de la jurisprudence. Pour le mufti qui se met à la disposition des gens, le cheikh, il dit. On va continuer là à ce sujet-là, il dit. هذه شروط جعلها الأصوليون للمفتي الذي ينصب نفسه للناس ليفتيهم ولم يجعلوها للداعية الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكفيه علمه بما يأمر به وينهى عنه يعني يعلم أن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر ولا يشترط فيه تلك الشروط فلعله اتضح الآن الفرق بين العالم المجتهد وبين الداعية الذي يأمر الناس وينهاهم فالعالم المجتهد أو المفتي هو الذي تشترط فيه هذه الشروط أو تشترط فيه هذه الشروط هذا هو المجتهد المطلق مفت على مستوى العامة والخاصة والناس ينتابونه من كل مكان ويصدرون عن فتواه هذا هو الذي تشترط فيه هذه الشروط شروط المجتهد المطلق كيسك الشيخ الدي حفظه الله تعالى الدي ك ces conditions ont été établies par les spécialistes des fondements de la jurisprudence pour le mufti qui se met à la disposition des gens pour leur donner la fatwa. Et ils n'ont pas mis ces conditions pour qui? Derrière le prêcheur, qui commande ce qui est convenable et interdit ce qui est interdit. D'accord? Ce qui est blâmable. Car celui-là, il lui suffit, c'est-à-dire le derrière le prêcheur, qu'il ait la science de ce dont il commande et de ce dont il interdit. C'est-à-dire qu'il sache ce qu'il interdit est interdit et que ce qu'il ordonne est convenable. C'est ça, ça lui suffit d'avoir cette science-là pour le faire. Et il n'est pas soumis aux mêmes conditions que l'autre. Peut-être que maintenant, la différence entre le savant mujtahid et le prêcheur qui ordonne aux gens et leur interdit est claire. Le savant mujtahid ou le mufti qui doit répondre à ces conditions établies, c'est le mujtahid mutlaq, le mufti. Au niveau général et spécifique, public et privé, les gens reviennent à lui de partout et procèdent à sa fatwa. C'est celui-là pour lequel les conditions sont mises, les conditions du mujtahid, quoi? Mutlaq. Cheikh continue en disant, فَإِذَنْ اِتَّضَحَ أَنَّ الْعَمَلْ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ تُضَعُ فِي سَبِيلِهِ عَرَاقِيلِ وَمِنْهَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ لَيْسَتْ كُلَّهَا صَحِيحَةَ فَمِنْهَا مَا هُوَ صَحِيحَ وَمِنْهَا مَا هُوَ ضَعِيفَ وَالْقُرْآنَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ. C'est notre choubha que les gens donnent. هذا تلبيس تلبيس إبليس وبناء على هذا القول فالسنة ليست صالحة للعمل بها كالقرآن فالجواب على هذه الشبهة الإبليسية في غاية الوضوح نقول نعم السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف لكن هل هي مختلطة أم متميزة؟ نعم إنها متميزة ميزها علماء السنة ودونت الدواوين في بين الصحيح من الضعيف بل والموضوع. فالسنة ليست مختلطة بل هي محفوظة في الدواوين. وكشف العلماء ما خالط السنة من الدس والكذب فأبانوا ذلك كله، فلم تعد السنة مختلطة فيجب العمل بالسنة الصحيحة. Eh bien, il est maintenant clair que des entraves sont placées sur la voie de l'application du Coran de la Sunna. Nous pouvons ajouter à ce qui a précédé qu'ils disent que la Sunna, eh bien, elle n'est pas entièrement authentique. Ça, vous avez sûrement entendu cette ambiguïté-là. Il y a une partie qui est authentique et une autre qui n'est pas. Tandis que le Coran, lui, il est authentique, de manière catégorique. Ceci fait partie des ruses de Satan. À tel point que certains ont dit jusqu'au point de rejeter la Sunna de manière complète, et les ulama les appellent le Qur'aniyoun, même s'ils ne méritent pas ce nom-là. Ceci fait partie des ruses de Satan, et si on se base là-dessus, regardez l'implication. Cela veut dire que la Sunna n'est pas applicable comme le Coran. La réponse à cette ambiguïté satanique, de manière très claire, est de dire oui, il y a dans la Sunna des hadiths authentiques et d'autres faibles. Mais sont-ils mélangés ou sont-ils distincts les uns des autres, hein? Les savants de la Sunna ont fait la distinction et des recueils entiers ont été écrits afin de distinguer l'authentique de ce qui ne l'est pas, ce qui est faible. Et même ce qui est inventé, le mawdou'. La Sunna n'est pas mélangée, mais de plus, elle est préservée dans des recueils. Et les savants de la Sunna ont dévoilé ce qui était mélangé à la Sunna, comme mensonge et comme complot. Ils ont tout clarifié. La Sunna n'est donc pas mélangée. Il est donc obligatoire de mettre en pratique la Sunna authentique. Et chéri, il va rapporter maintenant des règles, des qawa'id, usus. ينبني عليها العمل بالسنة. الشيخ اللي ومن المناسب هنا أيها الإخوة أن نذكر قواعد أو أسس ينبني عليها العمل بالسنة، ولعلنا لا نستطيع الإحصاء فنذكر بعض القواعد والضوابط والأسس التي يتبعها من يريد العمل بالسنة. الشيخ اللي les bases de la mise en pratique de la sunna ou les règles si vous voulez. Il convient ici, chers frères, de rappeler les règles ou les bases à partir desquels on met en pratique la sunna. Et nous ne pourrons peut-être pas les citer toutes. Nous en citerons quelques-unes. Des règles, bases, conditions, usus, qawa'id, dawabit en arabe. Que celui qui veut pratiquer la sunna doit suivre. Eh bien la première règle, qa'idatul oula. Al-imanul jazim bi anna sunnata ahadul wahyayni. Comme a dit alayhi salatu wassalam, rahmukallah. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالسنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنة عمل بالقرآن ورد السنة رد للقرآن. Première règle, la foi catégorique, الإيمان الجازم, en le fait que la sunna est l'une des deux révélations. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il m'a certes été donné, révélé, le Coran et son identique avec lui. La sunna est donc une révélation d'Allah à son messager, alayhi salatu wassalam. La mise en pratique de la sunna est la mise en pratique du Coran. Et le rejet de la sunna est le rejet du Coran. C'est ça qu'il faut comprendre, ikhwa. Qu'il n'y en a pas un qui vienne vous mettre des ambiguïtés et essayer de séparer les deux. D'accord ? Vous rappelez que pour les frères qui ont fait le wasiti avec Cheikh Falah Ismail, hein, hafdahullah, et je vous annonce que le Cheikh est malade et qu'il ne voit pas ou presque pas d'un œil à cause de son diabète et qu'il est en Allemagne pour le moment et qu'il devrait venir ici dans 4-5 jours, Inch'Allah, si tout va bien. D'accord ? Il nous a dit, quand il a parlé de l'wasitiya, tout le premier livre, Ibn Taymiyyah rapporte des preuves du Coran. Hein, vous vous souvenez de ça, hein? Et puis il dit « Wamina sunna ». Ça veut dire quoi? Et les preuves de la sunna. Et Cheikh, il a dit, c'est une preuve que quoi? Que sunna en elle-même, elle est taqririya. Et qu'il y a des sifat qu'Ahl sunna, à laquelle, hein? Des sifat d'Allah Azza wa Jal, à laquelle Ahl sunna y croit, qui ne sont pas dans le Coran, mais qui sont dans le sunna. Hein? Mais Ahl sunna, ils y croient. Parce que c'est dans la sunna, c'est rapporté dans la sunna. Hein? Vous vous souvenez de ça? De ce point-là qu'il avait rapporté. Il avait dit que at-tafsiriya wa taqririya, qu'elle explique le Coran et en même temps elle établit des jugements aussi. Et c'est ce que Cheikh va dire plus tard. Deuxième règle, القاعدة الثانية, اعتقاد عصمة السنة تبعا لعصمة قائلها عليه الصلاة والسلام. ولعله من الأدلة على ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة معصومة, وما وقع من خطأ وردت به بعض الأحاديث فليس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من بعض الرواة. فرد الحديث يرجع إلى سببين, إما طعن في الراوي أو سقوط في السند, وكل ذلك أبانه علماء الإسلام. Deuxième règle, la croyance en l'infaillibilité de la sunna qui découle de l'infaillibilité de qui? De celui qui l'a dit, c'est qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi les preuves de cela, le verset dans la traduction du sens est « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » C'est la traduction du sens de Surat Najm, versets 3 et 4. La sunna est donc infaillible, préservée. Et certains hadiths ont été rejetés en raison de certaines erreurs qui ne sont pas du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais de certains rapporteurs. Le rejet d'un hadith revient donc à deux raisons. Ça, je voudrais que vous les reteniez. Une critique du rapporteur ou un manque dans la chaîne de transmission. Et tout cela a été mis en évidence par qui? Les savants de l'islam. Troisième règle. القاعدة الثالثة وجوب التحري في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم نسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح. ومن القواعد الحديثية أن للحديث الصحيح شروطا, هي ما اتصل سنده برواية العدل التام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذه شروط الحديث الصحيح. Troisième règle, bien c'est quoi? C'est l'obligation de s'enquérir de l'authenticité, je répète, l'obligation de s'enquérir de l'authenticité de l'attribution d'un hadith au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, en des mots plus simples, de vérifier si c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit ou qui l'a fait. Hein? Vous connaissez les différents types de sunnah, de hadith. Et il n'est donc pas permis aux musulmans d'attribuer un hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de s'assurer de son authenticité. Et parmi les règles de la science du hadith, hein, il y a certains... Forte parole de Cheikh Al-Albani, notamment par rapport à ce point-là. Et parmi les règles de la science du hadith, il y a que le hadith doit répondre à des conditions qui sont. Alors pour les frères qui connaissent un peu moins le hadith, elles sont réunies dans le Bayqouniya et d'autres livres, mais le Bayqouniya c'est un des premiers livres que les débutants y font. Et le Bayqouniya, rahimahullah, il a dit « Awwaluhu as-sahih, wa huma attasal, isnaduhu wa lam yushad, aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, mu'tabadun fi dhabtihi wa naqlihi. » Donc c'est quoi les cinq conditions, si vous voulez? C'est وَهُمَ التَّصَلْ اِتِّصَلُ السَّنَدْ. Cheikh dit, d'ailleurs regardez ici, la continuité de la chaîne de transmission. مَتَّصَلْ إِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَدْ أَوْ يُعَلْ عَدَمْ الْعِلَّ الْقَادِحَ et عَدَمْ الشُّدُودْ. Pas rentrer dans les détails, عِلَّ on peut traduire ça par défaut. Hein? Retournez au livre de hadith, et shudud, hein, c'est quand un rapporteur, il rapporte quelque chose de contraire à soit quelqu'un qui est plus fort pour lui dans la narration ou plus nombreux. Hein? Donc ce hadith-là, on l'appelle quoi? Shad, et c'est partie du genre du da'if. Par exemple, à titre d'exemple, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il considère que le fait de pointer du doigt entre les deux prosternations, c'est shad. Hein? On sait qu'il y a un khilaf, Cheikh Al-Albani dit que c'est hasan, etc. Pourquoi? Parce que tassih al-ahadith wa tad'ifa mas'alatun ijtihadiyya. C'est une mas'al ijtihadiyya. Ça relève de l'effort d'interprétation des ulama. Donc on a dit quoi? Ittisal shanad, la continuité de la chaîne de transmission. C'est-à-dire quoi? D'un autre rapporteur, c'est-à-dire que par le rapport d'un rapporteur ayant les caractéristiques des mémorisations, ce qu'on appelle un dabt, et c'est ça la quatrième condition. يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِتٌ. Ici dans le texte, c'est la cinquième. Dabt, sans rentrer dans les détails, il y a deux genres de dabt chez les ulama. Dabtu sadri wa dabtu kitab. C'est qu'un muhadith, il rapporte de son livre ou il rapporte de sa poitrine, c'est-à-dire de sa mémorisation. D'accord? Et, al-adl. عدل ضابط عن مثله. العدالة, revenez au livre de Moussa al-Hadith, on peut traduire ça par quoi? Par l'équité requise. C'est-à-dire qu'en résumé, c'est que la continuité de la chaîne de transmission, par le rapport d'un rapporteur ayant les caractéristiques de quoi? De mémorisation, et d'équité requise, qui rapporte d'un autre rapporteur, hein? Mithlihi, qu'on a dit quoi? Qui répond aux mêmes conditions que lui. Sans choudoud et sans illa. C'est ça les cinq conditions du hadith sahih. Revenez au premier vers de la poésie de Al-Bayquni dans son fameux livre Al-Bayquni, Al-Mandhuma Al-Bayquniya. Ce sont donc les conditions du hadith sahih authentique. Quatrième règle. القاعدة الرابعة وجوب التسليم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يدركه العقل. Très important ça. On va voir pourquoi après, inshallah. Et bien, la quatrième règle, c'est l'obligation de se soumettre à ce qui a été rapporté de manière authentique. De qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce même si la raison ne le comprend pas. Cinquième règle. القاعدة الخامسة. فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمع المبين. مبين وذلك عند التعارض وبهذا نعرف تلبيس أهل الباطل في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت لعبة مكشوفة وقولا زائفا ولكن أصحاب الأهواء يغلبون العقل على النقل أو يغلبون عفوا العقل على النقل وهذا هو سبب الضلال واستحكام الهوى والشهوة وركوب البدعة ونبذ السنة فنسمع عن أحد الكتاب المعاصرين في حديث الذبابة يقول إنه يؤخذ regardez les paroles الضلال والعياذ بالله إنه يؤخذ معناه من طبيب كافر وليس بحاجة أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه المقولة الخبيثة. هذا هو صنيع المدرسة العقلية الفلسفية يرد حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان علة الغمس, غمس الذباب في الإناء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. عليكم السلام. Cinquième règle, la compréhension de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Fiqhu sunnati nabi, alayhi salatu wassalam. Sans rentrer dans les détails, revenir au livre d'Ousul également, eh bien, c'est de porter le général sur le spécifique. Ahl sunna, ils ont des règles, hein, dans comment utiliser les textes. Hein, al-mutlaq ala al-muqayyad, wal-am ala al-khas. L'absolu sur le restreint, le mujmal sur le mubayyin. Rassembler les textes lorsqu'ils sont en opposition de manière apparente. C'est moi qui ai rajouté de manière apparente. Parce que les textes, quand ils sont authentiques, est-ce qu'ils sont en contradiction? Non. Qui se donne un exemple? Et je vous aide. Savoir avec toucher la main à un certain endroit du corps. Toucher les parties intimes. Il y a un hadith qui dit quoi? Qui dit que tu dois faire tes ablutions. Et un autre hadith qui dit quoi? Ce n'est qu'une partie de ton corps. Les deux hadiths sont authentiques. Donc on sait, regardez l'iman, on sait qu'ils viennent tous les deux du prophète, alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va dire que quoi? Il y a une contradiction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un jam'a. Eh bien, les ulama, ils ont fait un jam'a comment? Parmi eux, il y en a qui ont dit, eh bien, c'est qu'on touche sans ha'il en langue arabe. Ha'il. Sans quoi? Ça, c'est notre. C'est le sujet que je vais rapporter après. Ha'il, c'est quoi? Exactement. C'est quelque chose qui recouvre, qui t'empêche, quelque chose qui. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, tu le touches à nu, si tu veux. D'accord? D'autres ulama, ils ont dit quoi? Hein? Wallah, Alim, c'est la parole que moi je vois la plus forte, parce que celle qui va la plus avec la facilité de la religion, hein, comme ils ont dit certains mashayikhs, eh bien c'est quoi? C'est que c'est avec désir, comme tu as dit. Bishahwatin. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple de jama'a par exemple. Il y en a de nombreux exemples. Avec tout cela, nous connaissons les ruses des gens du faux dans le rejet de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils font passer la raison avant les textes. Alors vous vous souvenez parmi eux, Cheikh Fala Ismail, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à ça? Al-Sunnah, c'est quoi? Il faut passer un naql avant l'aql. Hein? Non, je pensais à quelque chose, mais je pas, parce que je voudrais terminer le cours aujourd'hui. Revenez à Sharh al-Tahawiyyah de Sheikh al-Albani, rahimahullah. Ou plutôt, pardon, le Sharh al-Tahawiyyah de qui? Ibn Abiz al-Hanafi, avec les annotations de Sheikh al-Albani, Sheikh Ben Baz. Hein? Et il y a un très très beau passage sur l'aql et le naql. Vraiment, c'est très très intéressant. Et ceci est la cause de l'égarement et de prendre pour juge la passion et leur chevauchement de l'innovation et le rejet de la sunna. Nous entendons l'un des écrivains contemporains dire au sujet du hadith de la mouche. Qui connaît ce hadith? Vas-y, je t'écoute. Même en français ou le ma'na, hein? Ouais, vas-y. C'était juste au début, vas-y, continue. Vas-y, 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 c'est juste, c'est juste. Il a été dans l'explication directement, c'est juste, c'est ce qu'il va dire le cheikh. Hein? Vas-y. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le hadith qu'on appelle, les ulémas appellent le hadith de Dubaba. C'est quoi? C'est que quand une mouche qui tombe dans ton récipient, qu'est-ce que tu fais? Fi'ina yahadikum falyaghmisahu. Hein? C'est que tu la plonges complètement. Pourquoi la raison? C'est parce que dans une aile, il y a un mâle et dans l'autre, il y a le remède, la cure. Et on va voir qu'est-ce que certains disent par rapport à ça. Donc il y a un des écrivains contemporains, vous avez compris que Cheikh il n'a pas appelé Alim. Hein? Al-Kuttab al-Mu'asirin. Un écrivain contemporain. Hein? Dire au sujet du hadith de la mouche, dire on prend son sens d'un médecin mécréant, il n'y a pas de nécessité de le prendre du prophète, alayhi salatu wasalam. Regardez l'aql, qu'est-ce qu'il fait. Voilà ce que fait l'école philosophique rationnelle. Il rejette un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wasalam, où la raison pour laquelle la mouche doit être plongée complètement est mise en évidence. Hein, comme tu as dit très justement, Ahsan, Ahsanallah ilayk. Plonger la mouche dans le récipient. On va voir pourquoi après. Le prophète Hassan a dit, si une mouche, traduction du sens du hadith, si une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il plonge, c'est-à-dire la mouche, qu'il le plonge, c'est-à-dire la mouche, ou en français qu'il la plonge, complètement, puis l'enlève, car il y a dans l'une de ses ailes un mâle et dans l'autre, une cure. Là, on va voir la différence entre le Kuttab, le Mu'asirin, certains, écrivains contemporains, parmi les Dullal. Hein? Et on va voir Ibn Hazar, qu'est-ce qu'il dit dans le Fath al-Bari. كيسكي دي بالجوزي رحمه الله رحمهم الله قال الحافظ رحمه الله في الفتح على شرح هذا الحديث وقال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء وما ألجاه إلى ذلك قال وهذا السؤال جاهل أو متجاهل فإن كثيرا من الحيوانات قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنع للتعسيل فيه وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها وأن تكسر الحب نصفين لئلا تنبت لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر وقال ابن الجوزي رحمه الله ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم انتهى محل الغرض هذه العلماء كما يغفت. Avec quoi il a réfuté? L'aql, la raison. Hein? Vous allez comprendre, après, il y a peut-être des frères qui disent, mais comment la raison, en vérité, comment elle peut être en opposition avec les textes? Ben c'est ça, l'aql salim, il ne rentre pas en opposition avec les textes. C'est l'aql mutalawith. Il a dit, talawith bil afkar al-khabitha. C'est la raison qui était polluée par les mauvaises idées et croyances. C'est celui-là qui comprend le contraire. Ah, mais l'aql salim, la raison saine, elle ne va pas en opposition avec les textes. Ça, il va le dire, Cheikh Aouid, après, Inch'Allah. Alors, Hafid ibn Hazar dit dans son explication de ce hadith, dans le Fath, qui est quoi? Fath al-Bari. L'explication de Sahih al-Bukhari. Al-Khattabi a dit que des gens ont dit à propos de ce hadith, comment se peut-il que le mal et la cure, regardez l'aql, hein, Al-Khabith. Et la cure soit réunie dans les ailes d'une mouche. Et comment la sourate, elle le saura, hein, d'elle-même, comment faire passer en premier l'aile où il y a la cure, hein, ça rejoint ce que tu as dit très justement, et que l'a-t-elle poussé à cela? Il dit, ceci est la question d'un ignorant, ou de quelqu'un qui ne veut pas savoir. Car il y a dans beaucoup d'animaux des caractéristiques opposées, regroupées en eux. Allah les a joints et les a soumises à être unis. Et on a fait la force des animaux. Et celui qui a insufflé à l'abeille de prendre une demeure étonnante, la ruche, c'est pas étonnant une ruche. Hein? Même les koufars, ils font des documentaires entiers sur la ruche, les abeilles, etc. Hein? Et pourtant, pour certains, ça les conduit pas à croire en Allah Azza wa Jal. Eh bien quoi? Allah, hein, on va répondre après ça. Celui qui, c'est qui évidemment? Allah. Et celui qui a insufflé à l'abeille de prendre une demeure étonnante, de l'utiliser comme fabrique du miel, et qui a insufflé à la fourmi de faire des réserves de nourriture pour le moment où elle en aura besoin. Écoutez ça, et de casser les graines en deux afin qu'elles ne poussent pas. Hein? Eh bien, n'est-il pas capable d'insuffler à la mouche de faire passer une aile en premier et de laisser l'autre en retrait? Hein? Je pense qu'il n'a plus rien à dire. Ibn Jawzi rahimahullah a dit, ce qui a été rapporté de celui qui a dit cela n'est pas étonnant. Car l'abeille, on continue encore, l'abeille produit du miel de son côté supérieur et lâche du poison de son côté inférieur. Hein? Et le serpent dont le venin est mortel, sa chair est utilisée dans le sérum qui soigne le venin. Hein? Al-Fath, livre de la médecine, chapitre 2, lorsque la mouche tombe dans un récipient. Vous voyez Al-Bukhari comment il l'a mis, hein? Kitab al-Tib, chapitre de lorsque la mouche tombe dans un récipient. Hein? وقيل له كيف تنكر نزول المسيح واحاديثه continue avec celui là sa raison elle est polluée là احاديثه واحاديثه متواتره قال انه لم ينكرها لسندها لكن لانها تخالف العقل. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il lui fut dit, comment peux-tu rejeter la descente de Jésus alayhi salam alors que les hadiths à ce sujet arrivent au degré de tawatur? Il répondit, je ne les ai pas rejetés pour leur chaîne de transmission, mais parce qu'ils vont à l'encontre de la raison. Vous goûtez un peu la ni'ma d'être salafi, d'être sur la sunna. Hein? Et moi, comment on peut quitter la salafia? Et comment est-ce qu'on peut arrêter de pratiquer? Hein? Allah an'ama alayna bil-islam. Wa an'ama alayna bil-sunna. Comment a dit l'imam Ahmed rahimahullah? Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa ni'mati l'sunna. نحن أنعم الله عز وجل بتلك النعم فعلينا شكره سبحانه وتعالى والشكر يقتضي الأعمال كما نجا فيه سنة كما جا فيه كنا مام عندي مزابي تخي تخي بخوش جافي ونجا رابورتي الهستوار يحفظ القرآن يحفظ المتون لا لانغ عربي تترى كونفيرتي maintenant il est apostat il a quitté complètement la religion et il dit je crois plus والعذو بالله. Hein, certains frères qui sont ici le connaissent également. Comment on peut quitter l'islam quand on a goûté la foi? Hein? Surtout qu'Allah, en plus de ça, est à combler du bienfait d'être sur la sunna du prophète. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal al-thabat. والسداد إلى الممات ها؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك ولكن الثبات له أسباب. والمفترض في المسلم كما ذكرنا في القواعد عند تعارض العقل والنقل تقديم النقل على العقل بل إن العقل السليم لا يعارض الحديث الصحيح لأن شأن المسلم هو التسليم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشبهة الخبيثة ما يسمع دائما أنهم يقولون في الدين قشور ولباب. انظروا الإحداث في دين الله عز وجل، كان السلف يقولون الأصول والفروع، وهؤلاء يقولون القشور واللباب، بل يحملون على أهل السنة فيقولون أنهم يتمسكون بالقشور، فأصبح الدين عندهم فيه قشور ولباب، والقشور مآلها النبذ والترك. إذن هذه بعض الشبه التي جعلها أهل الضلال وأهل البدع من الصوفية والحزبيين تمييعا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد للسنة ورد للقرآن، لأن رد السنة رد للقرآن في الحقيقة. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمعدن بين كتاب الله إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتي عليه الصلاة والسلام. فالسنة عليه الصلاة والسلام تفصل مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، وقد تنسخه، وقد تزيد حكما على ما في القرآن. وشأن المسلم عدم التفريق بين القرآن والسنة، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول عند جميع أهل السنة والجماعة، كما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نذكر في الحقيقة كلمة ذهبية للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يؤثر عنه أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، عرف التكلف وعرف التنطع وعرف أن هذه من شبه الشيطان، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا عرف السلف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفوا قدر القرآن الكريم وعملوا بهما. قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. استلا الصفة ذكي، هذه صفة من؟ الراسخ في العلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولم يضعوا هذه العراقيل وهذه أمور كلها محدثات، والسبب في ذلك هو تقديم العقل واستعمال الفلسفة والمنطق. وأما اليوم فقد جد عن الساحة بلايا أظن لو أن ابن القيم رحمه الله كان حيا لعدها طواغيت جديدة، منها المصلحة. المصلحة تقتضي أن يبقى كل إنسان على ما هو عليه ولا يعدل أحد عن رأيه ما دام الجميع مسلمين، كل له اجتهاده. ولهذا قال قائلهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو غربلت المسلمين غربلة ونخلتهم نخلا لوجدت أنهم لم يجتمعوا إلا على لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو عملت منظارا صحيحا لواقع المسلمين لوجدتهم فقط مجتمعين على ماذا؟ لوجدتهم مجتمعين على لا إله إلا الله لفظا دون المعنى والعمل. فمنهم القبوري ومنهم وفيهم الرافضي ومنهم الصوفي الحلولي ونفسك الحلول إلى غير ذلك. فإذا على هذه المقولة الخبيثة يكفي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالصوف الحلولي الذي يقول ما في الجبة إلى الله، يعني في والرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف، أعوذ بالله من ذلك. وكان الرافضي القبوري على حد سواء، لا فرق بينه وبين المسلم السني خالص التوحيد، لأن الكل مجمع على قول لا إله إلا الله لفظا. في بارتي دو ce qui est obligatoire à tout musulman, comme nous l'avons dit dans les règles, que lorsque le texte et la raison sont en opposition, On a dit quoi aussi, n'oublie pas, de donner préscience au texte par rapport à la raison. Mais de plus, la raison saine ne peut pas opposer le hadith authentique. Car le musulman est soumis à la parole d'Allah et à la parole de son messager, alayhi salatu wassalam. Fait partie de cette ambiguïté que ce que l'on entend toujours, que la religion est divisée en chair et pelure. Ils disent ça. Ça, c'est une parole très connue chez les frères musulmans. Moi-même, je l'ai même entendu personnellement. L'ubab wa qushur. Pourquoi? Pour dénigrer la sunna. Ils se moquent de la sunna, comme on va dire. Il dit quoi? Il dit, regardez l'innovation dans la religion d'Allah. Les salafs disaient les fondements et les branches, dans le furu, et eux, qu'est-ce qu'ils disent? La chair et la pelure. Ils parlent de din Allah Azza wa Jalla, La religion pour eux est claire, est chère et pelure. Et la destination de la pelure, c'est quoi? C'est de la rejeter et de la délaisser. Voici donc certaines ambiguïtés émises par les gens de l'égarement et les gens d'innovation, parmi les soufis et les sectaires, hizbiyoun, afin de perdre la sunna du prophète, de la rejeter, et de rejeter le Coran. Car le rejet de la sunna, c'est quoi? Un rejet du Coran en réalité, comme dit le shir. Comment? Eh bien, car la traduction de la parole d'Allah dans le Coran dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Sourate Al-Hajr, verset 7. Et la traduction du sens de la parole d'Allah, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Sourate Al-Nahl, verset 44. À qui revient-on pour la clarification du Coran? Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunna, car sa sunna détaille la généralité du Coran. Restreint ce qui est absolu, spécifie son général, et peut des fois abroger, et peut rajouter un jugement sur ceux énoncés dans le Coran. Le musulman ne fait pas de différence entre le Coran et la Sunna. Donc tout ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est accepté. Kulhu maqboul. Il y a une parole en or de l'imam Mohammed Abu Idris al-Shafi'i, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a été rapporté de lui qu'il a dit, je crois en Allah. Et en ce qui vient d'Allah, selon le sens voulu par Allah. Et je crois au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens voulu par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les paroles en or des salafs. Et de l'imam Malik, rahimahullah. On avait dit quoi? Que ces paroles, ces hadiths, sont acceptés chez qui? Et j'ai oublié de le dire, c'est Ahl Sunna al Jama'a, c'est important de le dire. Comme ils acceptent ce qui est à rapporter de qui? Qui vient de d'Allah. Ils acceptent ce qui vient du prophète, Ahl Sunna al Jama'a, comme, vous entendez le mot, comme ils acceptent ce qui vient d'Allah. Ils ne font pas la différence, c'est ça que ça veut dire. L'imam Malik, rahimahullah, imam Dari al-Hijra, Ali, rahmatullah, il fut questionné au sujet de l'istiwa. Il comprit que c'était de l'exagération. Et que cela faisait partie des ambiguïtés de Satan, de Shaitan. Il répondit, l'istiwa est connu, et son comment ne l'est pas. Et croire est obligatoire, et questionner à ce sujet est une innovation dans la religion. C'est comme cela que les salafs connaissaient l'importance de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme ils connaissaient l'importance du noble Coran. Ils ont mis tous deux en application. Ils dirent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Ils n'ont pas placé ces entraves. Et toutes choses innovées, toutes ces choses sont innovées, dont la cause est de faire passer la raison avant les textes et l'utilisation de la philosophie et de la rhétorique. Nous avons aujourd'hui des calamités qui sont apparues, dont je pense que si Ibn Qayyim était vivant, il les considérait comme des nouveaux tawarites. Parmi eux, là, ce qu'on appelle la maslaha. C'est qui qadr al-masalih al-mafasid? Ahl al-ilm. Le bien implique que chaque individu reste sur ce quoi il est et que personne ne délaisse son opinion. Tant que tout le monde est musulman et que chacun a son effort d'interprétation, chacun fait son ijtihad. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, nous nous entraînons sur ce quoi nous sommes d'accord, nous nous entraînons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous nous pardonnons sur quoi nous sommes en divergence. C'est la règle de qui ça? Des khwan muflisoun, al-mufsidoun, al-khawan, comme les appelait Cheikh Mohammed al-Banna, rahimahullah. Et c'est qui l'a émise? Hassan al-Banna, Cheikh Ben Baz, il l'a refuté dans Majma' al-Fatawa. Cette règle-là. si tu filtrais les musulmans, tu trouverais qu'ils ne sont réunis qu'autour de la parole de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, si tu analyses correctement la situation des musulmans, tu trouveras que les musulmans se réunissent autour de quoi ? Ils sont réunis autour de quoi ? Autour de la ilaha illallah, mais juste en, et Muhammad Rasulullah, mais juste en parole. Pas autour de son sens et de son application, de sa mise en pratique. Parmi eux, il y a le Qubouri, le Rafidi, le Soufi, le Hulouli, etc. Selon cette parole, il suffit de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le Soufi Hulouli qui dit qu'il n'y a dans le manteau que Allah. C'est-à-dire que la personne elle-même, c'est Allah. Ma fil jubbati illallah wa li'udhu billah. Ils disent, c'est une traduction de ce vers de poésie, si on peut appeler ça de la poésie, et le Seigneur est serviteur, et le serviteur est Seigneur, si seulement je savais qui est le Mukallaf. Ainsi que le Rafidi et le Qubouri, pas de différence entre eux, et le musulman sunnite, car ils sont tous, le musulman sunnite qui vaut une unicité sincère à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de différence entre tous ceux-là, car ils sont tous regroupés autour de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah en parole. C'est ce qu'ils disent évidemment. Tafsir al-ayah ou al-ayat khatimat al-asl. On va terminer là-dessus, inshallah. قوله لقد حق القول على أكثرهم إلى آخر الآيات. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا هي جمع غل والغل ما يغل به العنق فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة فهي قد وصلت إلى الأذقان قد رفعت رؤوسهم إلى الفوق فهم مقمحون أي رافع رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم فلا يستطيعون أن يخفضوها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان فأغشيناهم فهم لا يبصرون قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وكيف يؤمن من طبع الله على قلبه ورأى أن الحق باطل والباطل حق والقسم الثاني الذي قبل النذارة وقد ذكرهم الله بقوله إنما تنذر أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك من من اتبع الذكر أي من قصده اتباع الحق وما ذكر به وخشي الرحمن بالغيب أي من اتصف بهذين الأمرين القصد الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى تذكرون كلام شيخ العثيمين من قبل أن الخشية الخوف مبني على العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك ومن وفق لهذين الأمرين فبشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة انتهى كلام السعدي رحمه الله قلت أي القائل شيخ عبيد وبهذا الكلام الجيد النفيس في شرح الشيخ رحمه الله تظهر مناسبة استشهاد المؤلف رحمه الله إلى هذه الآيات وجعلها ختام لهذا الأصل تم بحمد الله وتوفيقه جمع ما تيسر لنا استنباطه من الفوائد من الستة الأصول العظيمة
الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
termine ce passage-là avec son terme le livre. L'exégèse des versets qui clôturent ce fondement. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux est réalisée jusqu'à la fin des versets de ce qu'on a cité de Surat Yassine 7 à 11. Cheikh Abdrahman Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui a fait le tafsir du Coran qui est connu comme tafsir al-Sa'di, il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, en effet, la parole contre la plupart d'entre eux est réalisée. Ils ne croiront donc pas. C'est-à-dire que sa volonté et son jugement, subhanahu wa ta'ala, ont été réalisés les concernant, qu'ils resteront dans leur mécréance et leur association. La parole contre eux ne s'est réalisée qu'après que la vérité leur a été exposée et qu'ils l'aient refusée, ils ont donc été punis par le fait que leurs cœurs ont été scellés. Wal'iyadu billah. Il a cité subhanahu wa ta'ala, ce qui empêche la foi, d'arriver à leur cœur. La foi, l'iman, an yasila ila qulubihim. Nous mettons des carcans à leur cou. Aghlalan, c'est le pluriel de roule. Et c'est ce avec quoi on enchaîne le cou. Et il est pour le cou ce que la chaîne est pour le pied. Ces carcans, aghlal, sont immenses. Il y en aura donc jusqu'au menton. Ils ont donc élevé leur tête vers le haut, ils auront les têtes dressées. C'est-à-dire les têtes élevées tellement les carcans autour de leur cou sont forts et qu'ils ne peuvent pas baisser leur tête. Et nous mettons une barrière devant eux. Une barrière derrière eux. C'est-à-dire une barrière qui les empêche de croire. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront pas voir. C'est-à-dire l'ignorance les a inondés de tous les côtés à tel point que l'avertissement ne leur a pas été utile. Cela aura été égal que tu les avertisses à un dartam amlam tundirhum ou que tu ne les avertisses pas. Comment pourrait croire celui dont Allah a scellé le cœur et a vu le vrai comme faux et le faux comme étant la vérité? La deuxième partie des versets, ceux qui ont accepté l'avertissement d'Allah. Allah les a cités dans la parole, dans la traduction du sens est. Tu avertis seulement, c'est-à-dire, ton avertissement est utile et ne tire des leçons de ton conseil que celui qui suit le rappel. C'est-à-dire, celui dont l'intention est de suivre la vérité et ce qui a été cité avec. Wa khashya ar-rahmana bil-ghayb. Et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le miséricordieux mais le craint quand même. C'est-à-dire celui qui a ces deux caractéristiques. Man ittasafa bihadhayn al-amrayn. L'intention, la bonne intention, al-qasd al-hasan, dans la quête, la recherche, fi talab al-haq, de la vérité. Et la crainte d'Allah, wa khashyat Allah azza wa jal. Ceux-là sont ceux qui bénéficient de ton message et se purifient par ton enseignement. Et celui à qui a été facilité ces deux choses, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Annonce-lui un pardon de ses péchés, c'est ça que ça veut dire, et une récompense généreuse pour ses actions vertueuses et son intention vertueuse. Fin de citation de Cheikh Abdrahman ibn Nasser al-Sa'di rahimahullah dans son tafsir et la partie de Surat Yassin, versets 7 à 11. J'ai dit, c'est-à-dire Cheikh Abdel Jabiri hafidahullah, par cette excellente et précieuse parole de l'explication du Cheikh, c'est-à-dire Abdrahman Nasser al-Sa'di rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, apparaît clairement la raison pour laquelle l'auteur a utilisé ces versets comme preuve et a clôturé ce fondement par ces versets. Et hani an liman waffaqahu Allah azza wa jal li hudur hadhihi ad-durus ila an khatamnaha al-yawm walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat parce que c'est un tawfiq min Allah Azza wa Jal, celui à qui Allah a permis d'assister à tous les cours, de s'asseoir, hein, d'écouter, de comprendre. Et pour les frères et les sœurs qui n'ont pas eu l'opportunité, walillahil hamd, on a ce genre de ajhiza ici, on enregistre, et le tout est sur notre site Salafi Publication, hein, francophone, c'est-à-dire spf.com. وجزاكم الله خيرا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك